Hello les distordus! Si vous aimez Distorsion, vous allez sans aucun doute adorer le balado Dérive disponible sur Radio-Canada Audio. Tout comme nous, le pharmacien et vulgarisateur scientifique Olivier Bernard adore démystifier des phénomènes scientifiques et dans la troisième saison du balado Dérive, intitulé « Les secrets de la mafia médicale », Olivier étudie le parcours de ces scientifiques qui ont défendu des idées marginales ou même dangereuses et dévoile leur impact méconnu sur la société. Le tout en s'appuyant sur l'histoire incroyable du chanteur québécois Bernard Lachance, décédé du sida en 2021, maladie dont il niait l'existence. Personnellement, j'ai dévoré le balado d'un bout à l'autre en un week-end, rivé à mes écouteurs. Dérive ainsi que plusieurs autres balados pour tous les goûts, dont plusieurs balados d'enquête et de mystère, sont disponibles en exclusivité sur Radio-Canada Audio. Téléchargez dès maintenant l'appli Radio-Canada Audio sur les plateformes Apple ou Android. Bonne écoute!
Vous êtes sur le point d'écouter Distorsion, un podcast sur...
If he had gone into the mainstream straight world of computer programming and technology, we would be lauding him on the cover of magazines for his success in terms of what he built. But instead, he sort of used that knowledge and that ability to create this empire on the other side of the law.
Des histoires étranges de l'ère numérique.
En 2005, Paul Leroux décide de mettre sur pied un important réseau de pharmaciens et médecins américains pour vendre des médicaments en ligne.
Profitant d'une zone grise dans le système, Leroux s'enrichit et devient extrêmement puissant.
Désirant toujours aller plus loin, il se diversifie dans plusieurs activités illégales à travers le monde. Trafic de drogue, d'armes et meurtres sur commande, pour ne nommer que celles-là.
Malgré son intelligence, sa cupidité va finir par jouer contre lui.
Au cours de ce dernier épisode d'une série de deux, nous concluons sur la montée et la chute de Paul Leroux.
Sébastien Lévesque, comment ça va ce soir?
Ça va bien et toi, Émile Gauthier?
Ça va très bien. On entame notre deuxième épisode d'une série de deux sur Paul Leroux, ce cybercriminel vraiment avec une vie rocambolesque. On vous en dit pas plus, mais si vous n'avez jamais écouté le premier épisode de cette série-là, on vous conseille de le faire. C'est déjà sorti la semaine dernière et lancez-vous là-dessus. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu des développements en juin dernier, en juin 2020, sur l'histoire de Paul Leroux. Donc, dans ce deuxième épisode, on va revenir un peu sur ces faits-là, sur ce qui est arrivé tout récemment, mais aussi là, on va parler de toute sa montée et de sa chute aussi là, dans le monde criminel. Et vous allez voir, c'est assez particulier comme évolution et très passionnant.
Oui, vraiment.
Tout d'abord, qu'est-ce qu'on boit, mon cher Seb?
On boit aujourd'hui, mon cher Émile, on boit la sur matcha mangue de la brasserie La Barberie qui est située à Québec. Charlotte à La Barberie.
Oui, ça fait longtemps qu'ils sont dans le game.
Oui, exact. C'est des pionniers même dans le monde de la microbrasserie. Encore une fois, cette bière-là, elle contient du lactose pour un peu balancer l'acidité de la surette, du sur de la bière. 5,5% d'alcool. C'est une fusion parfaite entre une bière sur tropicale et un matcha latte. Et moi, j'adore le latte, donc que je trouvais, et j'adore les bières sûres, donc je trouvais que le mélange des deux est vraiment bon. Donc, vous allez même y trouver des notes de mangue citronnée qui sont, bien sûr, adoucies par un enrobage crémeux du thé vert japonais. C'est excellent.
Ben oui, hein, quand même, c'est des saveurs qu'on est un petit peu moins habitués de retrouver dans la bière.
Oui, c'est audacieux.
Si vous voulez nous encourager via la tournée de bière, vous pouvez faire comme Sandrine qui nous a offert celle-là. Il nous offrait une tournée de bière via le distorsionpodcast.com. Il y a un onglet sur le site dédié à cela. Vous faites un don, comme ça, vous pouvez encourager le show et en même temps remplir notre frigidaire. On a aussi un shout-out 5 étoiles sur Apple Podcasts qui nous vient de Chris de Français, mais qui habite au Canada, en oui. fait. Et sa review est intéressante. Il nous dit « Camionneur français fraîchement arrivé au Québec, je cherchais des podcasts québécois à écouter lors de mes voyages à travers l'Amérique du Nord. Un podcast addictif qui fait défiler les kilomètres plus vite au point de m'avoir déjà fait louper la sortie d'autoroute quelquefois. »
Oh, on s'excuse.
En autant que ça arrive pas trop souvent.
Exact.
Donc, on a assez parlé, mon cher Seb. Oui. Est-ce qu'on est prêt à se lancer dans l'histoire rocambolesque de Paul Leroux?
Oui, mais juste avant, mon cher Émile, nous devons dire un petit mot à propos de notre partenaire, la Faculté de l'éducation permanente de l'Université de Montréal. Elle, c'est celle qui enseigne aux adultes et où les admissions sont en cours actuellement pour le certificat en enquête et renseignement, mais également comme pour les 30 autres programmes qui sont offerts.
Absolument. Il s'agit d'un certificat universitaire de 30 crédits pour toute personne passionnée d'enquête qui souhaite travailler dans les milieux professionnels et ou criminels. Au terme du certificat, vous serez en mesure de mener une enquête de A à Z.
Ce certificat est parfait si vous voulez compléter une formation existante, réaliser un bac par cumul avec d'autres certificats ou encore réorienter votre carrière.
Est-ce que ce serait une bonne formation pour, mettons, le deux podcasteurs qui s'intéressent aux enquêtes?
Oh que oui, mon cher Émile, même que j'y pense un peu chaque jour.
Moi aussi. Peu importe d'où vous venez, que vous soyez un distordu canadien ou européen, vous pouvez vous inscrire au certificat en enquête et renseignement à la FEP, la FEP.umontréal. OFEP.umontréal.ca et à rester avec nous. Là-dessus, Seb, est-ce qu'on est prêt à entamer notre histoire?
Oui, oui.
C'est parti. C'est parti. Yeah. Donc, dans cette deuxième partie, mon cher Seb, on va... tout d'abord, où est-ce qu'on s'était laissé la dernière fois? On se rappelle, dans l'épisode 1, Paul Leroux avait soi-disant participé à la mise sur pied de TrueCrypt, oui. un logiciel d'encryptage dont les bases sont encore utilisées maintenant.
Exact.
Puis, par la suite, il avait fondé une entreprise qui est RX Limited, et on avait juste effleuré le sujet. Mais aujourd'hui, on va entrer un peu plus en profondeur, puis vous allez voir qu'il va monter toute une espèce de stratagème dans le milieu de la vente en ligne de médicaments, mais vraiment dans une zone grise du système.
Oui, exact. Vous allez voir, il est tellement intelligent. Ça n'a pas de bon sens. Même s'il ne l'a pas utilisé à bon escient. Là,
ouais.
C'est quelqu'un de très, très brillant.
Je te laisse commencer.
Un peu comme on vous le disait lorsqu'on vous racontait lors de la première partie, suite à son départ du monde du cryptage, du moins sous son propre nom, Paul Leroux s'est dirigé vers le milieu des casinos en ligne, mais sans grand succès, pour ensuite se diriger vers le milieu pharmaceutique selon les conseils de son ami avocat du Costa Rica là, qui lui avait vraiment dit « tu vas faire plus d'argent avec les médicaments que les casinos ». En 2005, Leroux crée une entreprise israélienne au nom de IBS Systems. Cette société allait devenir le bras droit du service à la clientèle de son empire des médicaments sur ordonnance. Lors de l'enregistrement de la compagnie, Leroux est répertorié à une adresse à Rotterdam, aux Pays-Bas, à côté d'une image numérisée de son passeport australien, donc de vraiment sa vraie identité. Souvent, lorsqu'il crée des coquilles d'entreprise, il utilise toujours sa vraie identité malgré tout. À certains endroits, vous allez voir, il va utiliser des faux passeports, mais souvent, il utilise quand même sa vraie identité, on dirait sans pudeur, malgré l'illégalité de ce qu'il veut faire.
Oui, exactement, mais on dirait que à ce niveau-là, quand il crée justement ses entités, il n'est pas tout à fait, il n'est pas encore 100% dans l'illégal.
Non, exact.
T'sais, il reste dans les zones grises, tout ça. On dirait que c'est par la suite, quand il va prendre vraiment une tangente, puis vous allez voir, ça va aller loin, là, son investissement dans le monde du crime organisé, puis du trafic de plein d'affaires. Ouais. Ça va aller loin. Là, on parle de même des meurtres sur commande, des gens qui meurent étrangement sans trop savoir pourquoi. Mais on dirait que c'est à ce moment-là qu'il a commencé à complètement déborder dans le monde d'interlope, puis que c'est à ce moment-là qu'il s'est sûrement dit « j'aurais dû être prudent dans le passé ».
Oui, exact. Mais même à ça, vous allez voir, c'est autre chose qui finit par le coincer.
Mm-hmm.
Bref, pour démarrer le tout, il s'est lié à deux frères israéliens pour démarrer l'entreprise là-bas, Tomer et Boaz Tagar, qu'il avait préalablement rencontré sur un forum de discussion, le fidèle à ses habitudes. Peu de temps après avoir créé cette entité, Paul se met en marche et commence son projet qui nécessite des connaissances informatiques avancées dans le but de créer un pipeline numérique transparent qui connecte légalement des médecins américains aux pharmaciens, finalement pour aboutir dans les mains des consommateurs de médicaments américains.
Donc, une façon de commander en ligne, là, mais justement avant le temps, en 2005.
Oui, exact. C'était extrêmement précurseur, effectivement. L'une des personnes clés dans ce stratagème est Charles Schulz, un pharmacien expérimenté de 74 ans qui habite à Oshkosh, j'espère que je le prononce bien, qui est situé au Wisconsin aux États-Unis. Ayant été médecin militaire pendant la guerre de Corée, il avait ouvert sa première pharmacie en 1964 et l'avait dirigée avec sa femme Jeanne. Après quelques faux départs, la pharmacie Schulz est devenue une entreprise établie située dans une rue pittoresque du centre-ville d'Oshkosh. Dans les années 1980, il a acheté une seconde pharmacie à Monroe, qui est une ville qui est située à environ à 100 000 au sud d'Oshkosh. C'est un drôle de nom, hein? Oshkosh, on dirait que tout le temps que j'ai l'impression de dire un mauvais mot. Pendant des décennies, Schulz était un homme d'affaires respecté dans les deux communautés, un bon patron et un travailleur infatigable. Par contre, au cours de l'été 2006, Schulz reçoit un fax d'une entreprise dont il n'avait jamais entendu parler, Alphanet Trading, avec une adresse à Costa Mesa, qui est située en Californie. La lettre lui offrait une opportunité commerciale attrayante. Alphanet pourrait augmenter les ventes de médicaments en magasin de Schulz avec des prescriptions en ligne sans aucun investissement de sa part. Son rôle n'aurait pas pu être plus simple. S'il devenait affilié à Alphanet, il lui suffirait de se connecter au système informatique de l'entreprise, de remplir les ordonnances rédigées par les médecins américains et de les expédier à l'aide d'un compte FedEx, le compte d'Alphanet. Il serait ensuite remboursé par virement bancaire du prix du gros de l'ordonnance, plus une commission de 3,50 $ par ordonnance remplie.
Ouais, c'est quand même, mais ça a l'air sketchy, tu sais. J'ai de la misère à croire des fois qu'un pharmacien de sa trempe, oui, avec autant d'expérience, soit tombé là-dedans. Il me semble que quand tu vois le portrait de tout ça, ça a l'air fichy, là. Oui. Ça a l'air un peu étrange.
Un peu louche, oui, mais même lui, par la suite, il savait qu'il naviguait en zone grise.
Oui.
Mais les profits, des fois, ça, c'est plus fort que tout.
Ça fait penser un peu à ce qu'on vit au Canada. On vit un peu ça avec le cannabis. On a la SQDC, la Société québécoise du cannabis, mais il y a plein d'autres marchands ailleurs en ligne qui
oui,
vendent du cannabis.
Oui,
mais justement, c'est un peu une zone grise, à savoir, oui, c'est légal d'en vendre au niveau médical, mais est-ce que parce que tu peux en vendre d'une façon médicale, tu peux en vendre au grand public,
oui,
aussi? Puis
exact,
on sait qu'il y en a qui le font. T'sais.
Oui.
Donc, je me dis à quelque part que ça fait un peu penser à ça.
C'est vrai. J'avais pas fait le parallèle, mais t'as absolument raison.
Mais lui, c'est clair que c'est un marché qui est beaucoup plus contrôlé, là. C'est-à-dire
oui.
que c'est en tout cas, ça semble être beaucoup atteindre des proportions vraiment énormes aussi.
Ah oui, vous allez voir, là, les chiffres sont impressionnants. L'offre de Alphanet arrive particulièrement à un bon moment pour Schulz, qui est dans une situation vulnérable. Je vous explique. Son entreprise est en déclin depuis une dizaine d'années, malheureusement, alors que les chaînes de pharmacie à grande surface commençaient à évincer les petits commerces de quartier.
Ah.
C'est vrai, dans ces années-là, début 2000, c'est là qu'il y a eu Walmart, etc., les shopping,
c'est vrai.
Shopping Mart, les pharmaprix au Québec et tout ça, ont pris énormément de place et c'est devenu des très, très gros joueurs. Et évidemment, ils ont tassé un peu les petits pharmaciens de quartier. Là.
Ben oui, tu pouvais presque justement aller chez Jean Coutu puis avoir, à l'époque même, un paquet de cigarettes avec
oui,
ta
vrai.
Prescription médicale.
C'est vrai, ça a changé. Puis même maintenant, tu peux quasiment faire une épicerie dans une pharmacie.
Ben oui, non, exactement.
Sa famille, quant à elle, était assiégée par des problèmes de santé. Son fils souffrait d'un trouble neurologique qui nécessitait vraiment des soins presque à temps plein. Et Schulz lui-même avait été frappé par une série de petites crises cardiaques provoquées en partie par le stress que lui causait de maintenir son entreprise à flot. Et les longues heures passées aussi à faire la navette entre ces deux magasins, là, autant à Oshkosh qu'à Monroe. Parce que je vous rappelle, il y avait deux pharmacies. Au début, Schulz a ignoré l'offre. Il a ensuite fait quelques recherches en ligne pour déterminer si c'était une vraie entreprise ou s'il avait affaire à une arnaque. Finalement, il prend sa décision et contacte le recruteur de Alphanet. Schulz avait dès le départ des doutes sur l'éthique de l'opération. Mais le recruteur les a rapidement dissipés en envoyant à Schulz des copies des licences des médecins qui rédigeaient déjà des ordonnances et qu'Alphanet ne vendait pas des substances qui étaient vraiment contrôlées par le gouvernement et que dans le cas contraire, justement, il risquait la prison. Fait qu'il jouait là-dessus parce qu'il vendait pas n'importe quel médicament, là, vous allez voir.
Oui, des médicaments qui étaient dans d'autres listes.
Oui, c'est ça, exact. Alphanet et ses dizaines de sites web affiliés offrent une gamme de médicaments sur ordonnance allant du Propecia, qui est un médicament contre la chute des cheveux, aux différentes formes génériques de Viagra. Mais ses trois plus gros vendeurs sont le Ultram, le Soma et le Fioricet.
J'en connais aucun des trois.
Non, exact, il a fallu que je fasse un peu de recherche. Le Ultram, c'était la version générique d'un analgésique opioïde appelé le Tramadol. Donc, c'est pas loin des opioïdes. Là,
oui,
mais en
oui,
fond, c'est ça. Là.
C'en est un.
Après ça, il y a le Soma, qui est également connu sous le nom de Carisoprodol, que lui, c'est un relaxant musculaire qui est souvent prescrit pour des problèmes de dos.
Pratique aussi.
Oui, exact. Et le dernier, Fioricet, était souvent prescrit pour traiter les migraines. Et en plus de ça, pour le rassurer illustrer davantage, Alphanet a donné à Schultz, ça me fait bien rire, le numéro d'un ancien agent de la DEA en Floride, qui lui a rassuré qu'aucun des médicaments qu'il expédierait ne lui causerait des problèmes.
Hmm.
Mais tu sais, donc je doute de la validité de l'agent de la DEA
oui.
qui a fourni ça là, comme preuve.
Il a peut-être été payé pour rédiger.
Ben oui, c'est ça. Là.
Payé avec un gun sans tente.
C'est ça, puis même je me demande si c'est un vrai agent. Là.
À l'été 2006, Schultz signe ses deux pharmacies, et peu de temps après, il remplissait des milliers d'ordonnances à chaque mois. Son compte reçoit des virements bancaires en provenance de Hong Kong de façon très fréquente, dont le montant de chaque dépôt atteint souvent des dizaines de milliers de dollars. Donc, ça marche très bien pour lui oui. jusqu'à présent. Sur les différents sites d'Alphanet, les clients remplissent un questionnaire sur leurs antécédents médicaux et sur leurs symptômes, et ensuite commandent le médicament de leur choix et payent par carte de crédit. Donc, ça donne presque un diagnostic
ben oui.
en ligne.
Oui, exact. En même temps, c'est futuriste dans le sens que on voudrait que le système fonctionne un peu comme ça. T'sais.
Oui, c'est clair. Mais là, ça laisse place à...
Ah oui,
tu
non,
peux mentir.
Tous les abus, ben oui, tu sais, un questionnaire en ligne, il peut pas te voir.
Il peut pas constater que tu... Ah non, c'est vraiment très rigolo. Le questionnaire médical est ensuite transféré à un médecin américain recruté par l'entreprise pour rédiger une ordonnance sur la base des réponses fournies par le client.
Ouais.
C'est vraiment un système idéal, tu sais.
Ouais.
L'ordonnance est ensuite transférée à un pharmacien qui est situé aux États-Unis et qui utilise le compte FedEx fourni pour expédier les médicaments aux clients. Le médecin et le pharmacien reçoivent des honoraires pour chaque commande, donc les deux sont payés.
Oui, c'est ça. Là.
Le système était très complet. La base de données contenait l'historique des commandes de chaque client et suivait les dates et les montants de leur dernier achat. C'est presque plus précis
oui.
que ce que tu obtiens dans une vraie pharmacie
oui,
ou avec
exact.
Ton médecin de famille.
Oui, exact.
Mais peut-être un peu trop facile. Si une nouvelle commande était faite là, avant la fin de la prescription, le client ne pouvait pas obtenir son renouvellement de ses médicaments là, avant la fin du délai approprié, comme dans la vraie vie.
Oui, j'ai trouvé ça brillant. T'sais. On dirait qu'il y avait une éthique quand même qui entourait ça. Oui,
c'est peut-être juste pour un enrobage
ouais.
pour montrer qu'ils ont une certaine rigueur. Mais tu sais, Paul Leroux connaît rien. Je veux dire, il n'a pas étudié en médecine, là,
non, éthique
médicale. Parfois, l'entreprise rencontrait des problèmes avec la réglementation américaine, évidemment, mais si une ordonnance ne pouvait plus être expédiée à partir d'un certain état, le système la supprimait. C'est brillant. Si les règles concernant un médicament changeaient, le système s'adaptait en conséquence. Donc, il y avait une mise à jour un peu, là. Parfois, certaines filiales américaines étaient inspectées par le conseil de pharmacie locale. Ainsi, le pharmacien audité ne déconnectait pas du système pendant quelques jours. En fait, il déconnectait, puis il réapparaissait dans le système un peu plus tard.
Oui, c'est ça. Il se cachait un petit peu pour disons, devenir un petit plus discret par rapport aux gens qui surveillaient.
C'est clair. En 2005 maintenant, lorsqu'un prénommé Moran Oz, un nouvel employé de RX Limited, là, la maison mère d'Alphanet, la compagnie de Paul Leroux, lorsque ce gars-là commença son emploi, l'entreprise comptait 8 pharmacies américaines opérant dans le système et prenait 8000 commandes par semaine.
Okay.
C'est beaucoup pour c'est que 8 pharmacies. Mm-hmm. Là.
Ouais.
Donc, il devait rouler à mort, mais beaucoup trop pour en apparence.
Ben oui, c'est des petits commerces.
Ben de Oshkosh, Wisconsin.
Ben oui, ils n'ont même pas ça comme client, je suis sûr.
Ben
du moins,
oui.
pas en une semaine.
Mais non, ça en fait de la commande.
Ouais.
Là, c'est clair qu'il fallait faire quelque chose pour un peu cacher tout ça.
Mm-hmm.
Mais l'entreprise se développa rapidement et après quelques mois, le nombre d'employés a doublé. Parmi les nouvelles recrues, il y avait un homme là, du nom de Alan Berkman, dont la responsabilité principale, du moins au départ, était de fournir un soutien au niveau de la comptabilité aux pharmaciens et aux médecins américains. Pour ce qui est des employés du bureau d'Israël, ils étaient obligés d'adopter des noms à consonance américaine et de dire qu'ils étaient situés dans l'État du Utah, par exemple.
Ouais.
Dans le cas de Oz, il se nommait Ron Martin et Alan Berkman était Alan Berkman.
Ouais.
Mais ça, c'est communément utilisé pour même plein de compagnies
Toutes
légales.
Toutes les salles d'appel font ça.
Ben oui.
Exact.
Le travail d'Oz, là, de Moran Oz, ne nécessite aucune connaissance des produits pharmaceutiques ni même de l'infrastructure technologique derrière RX Limited. Il arrive chaque matin au bureau, donc à un vrai bureau physique.
Ouais.
Il examine rapidement les ordonnances téléchargées par les médecins aux États-Unis, puis clique sur quelques boutons pour les envoyer à l'une des pharmacies là, participantes au programme de RX Limited en répartissant les commandes en fonction des capacités quotidiennes de chaque commerce.
Oui, il y avait une intelligence artificielle, du moins dans le software
ben
qui,
oui,
qui calculait tout ça.
Le reste du personnel israélien était responsable de la communication avec les médecins et des pharmaciens et du service à la clientèle, c'est-à-dire la gestion des problèmes de mots de passe, des envois perdus, des cartes de crédit expirées et des questionnaires médicaux incomplets qui sont rejetés par les médecins.
Ouais.
Donc, il faisait un genre de trim de tout ça.
Ouais, exact.
Boaz et Tomer Tagar, les associés de Paul Leroux pour l'entreprise israélienne, ont déclaré à leurs employés qu'ils avaient un troisième partenaire silencieux dans leur entreprise. Un programmeur que Tomer avait rencontré après avoir publié une annonce dans un forum de discussion. Ce programmeur a géré l'infrastructure de l'entreprise dont il a externalisé une partie à deux entrepreneurs situés en Roumanie.
Oui.
Cependant, les opérations quotidiennes et les plans futurs de l'entreprise ont été déterminés par les frères Tagar. On fait un bond en juillet 2006. Oz est revenu de vacances pour découvrir que Boaz avait été évincé de l'entreprise.
Oui.
Aucune raison n'a été donnée sur le différend qui s'est passé entre les frères, mais à partir de là, Tomer serait en charge, dirigeant les opérations de l'entreprise se déroulant là, principalement aux États-Unis. Donc, Paul Leroux est toujours en arrière de ça.
Oui,
là,
toujours, ouais.
Il est jamais un public facing, il fait aucun meeting, il va jamais au bureau,
non,
il habite clairement pas là dans ces villes-là puis dans ces pays-là. Après le départ de Boaz, le chiffre d'affaires a continué de croître. Oz et Berkman ont recruté des amis pour travailler avec eux, vantant les quarts de travail flexibles et le bon salaire, bien sûr, qui était généralement environ 15% plus élevé que les autres emplois de centres d'appel en Israël.
Oui.
Donc, ils étaient généreux là-dessus.
Oui, c'était facile parce que les centres d'appel, ils ont un gros taux de roulement malgré tout.
Ah oui, mais c'est difficile de travailler là.
Ah oui, vraiment, moi-même, pour l'avoir fait plus jeune. Mais justement, il arrivait quand même à attirer beaucoup de monde parce qu'il offrait vraiment des bons salaires et des bons horaires. Là. Fait que c'est, étant donné que c'était tellement profitable qu'il pouvait en faire profiter aux employés. Donc là-dessus, il y avait un petit peu moins de problèmes. Il y avait moins de problèmes de rétention justement que d'autres entreprises.
Oui. Puis, un après-midi là, à l'automne 2007, un message instantané est apparu sur l'écran d'ordinateur de Moran Oz. « Je suis votre patron maintenant », a écrit quelqu'un qui s'appelait Paul Leroux, un nom que Moran n'avait jamais entendu parler auparavant, lui pourtant dans l'entreprise depuis 2 ans.
Oui.
Il n'y avait aucune explication, aucun signe de blague, simplement une déclaration selon laquelle, auparavant, il a été sous la charge de Tomer au début, mais que dorénavant, Tomer ne faisait plus partie de l'entreprise. Et là, le message disait « À partir de maintenant, vous vous rapporterez à moi ». Et c'est ce qu'a déclaré Paul Leroux. Donc, il savait même pas que lui existait et qu'il était en arrière de tout ça.
Là. C'est weird. Là.
Ah oui, ça montre à quel point il était bien caché. Oz a alors appelé Tagar, qui a rapidement expliqué que Leroux était un programmeur sud-africain vivant aux Philippines. Tagar se retirait de l'entreprise pour cet ancien partenaire silencieux, a-t-il déclaré. Quand Oz lui a demandé pourquoi, il a seulement dit qu'il avait travaillé trop dur et qu'il voulait voir ses filles grandir.
Ça, c'est louche, hein? Puis j'ai pas trouvé d'autres explications sur son départ.
Oui.
Je sais pas c'est quoi la chicane qu'il y a eu avec Paul, parce que c'est, vous allez le voir, là, c'est un patron assez difficile. Il y a la mèche très courte.
Oh oui.
Mais on n'a pas de détails, mais il semble toujours en vie. C'est ça la bonne nouvelle. En 2007, les affaires vont très bien et Leroux déménage vers les Philippines avec sa femme et sa fille à Manille. Il opère son entreprise à partir d'une luxueuse maison dans la communauté fermée haut de gamme de Dasmariñas.
Et là, on n'en avait jamais parlé, ça, qu'il avait une femme et une fille, Paul Leroux.
Oui, exact, qu'il a rencontré avant, je pense que c'était en Australie, si je ne me trompe pas, qu'il y a eu, et puis vous allez voir, il y a même eu d'autres enfants, là, mais oui, c'est sa première femme, mais très, très discrète, là, à part... À l'arrestation, j'ai vu une photo de son passeport, mais sinon, elle n'est jamais vraiment impliquée dans quoi que ce soit. De ce que j'ai vu, elle n'a pas été non plus... je pense qu'elle a été arrêtée, mais je ne pense pas qu'elle a eu des charges contre elle en tant que telle. Avec des revenus se chiffrant dans les centaines de millions de dollars, le mode de vie de Leroux a changé à certains égards, mais il est resté le même pour certaines choses. Selon plusieurs anciens associés, il est connu pour se vanter avec détail de ses conquêtes extra-conjugales. Il aimait également les maisons luxueuses, mais pour le reste, il n'était pas très extravagant. Il voyageait toujours en tongs, là, en sandales et en shorts. Là. C'est quelqu'un toujours qui était habillé bien, bien simple. En 2008, Leroux, qui jadis publiait en ligne sous son propre nom, avait disparu, remplacé par un homme obsédé obsédés par le secret. Ses activités pharmaceutiques étaient réparties sur des dizaines d'entreprises écrans enregistrées dans le monde entier, avec des noms comme, ça sonne tellement années 2000, c'est ce que tu disais dans le premier épisode, puis c'est tellement vrai, Ajax Technology. Le pire, c'est Ajax, c'est une vraie technologie.
Oui.
C'est du code, là, c'est une sorte de JavaScript. Bref, il y avait Sicom, il y avait GX Port et Southern Ace. Puis Southern Ace, c'est drôle parce que c'est l'As du Sud, c'est un Africain du Sud. T'sais, souvent, il jouait un peu avec ça.
Il laissait des petits indices. Ouais. Là. Mais c'est clair qu'à partir de ce moment-là, il doit tenter de se cacher le plus possible, puis il doit devenir paranoïaque aussi.
Oui, exact. Leroux utilisait souvent l'identité suivante sous ses entreprises, John Bernard Boland, et avait même un faux certificat de naissance et un passeport zimbabwéen à ce nom-là. Mais lui-même, il provenait de là, mais quand même, il a réussi à se faire créer une nouvelle identité. Leroux avait un autre faux certificat de naissance zimbabwéen pour un certain Johan William Smith, qui est un alias assez ironique parce que c'est un nom qui est populaire en afrikaans, là, en fait, la langue qui l'a fait abandonner l'école. C'était vraiment un nom qui était beaucoup utilisé pour ces gens-là. Là. Un autre acte de naissance mentionne son identité comme William Vaughan, et ce n'était que pour nommer ceux-là. Là. Il y en a eu vraiment plein d'autres. Auprès de ses employés, il utilisait aussi plusieurs autres pseudonymes. Il possédait également un passeport diplomatique de la République démocratique du Congo à son propre nom. Certaines personnes l'appelaient Benny, d'autres sont allées avec Boss ou même Paul, si elles connaissaient son vrai nom. Selon un proche qui a vu personnellement, écoutez ça, ça me fascinait, j'y ai réfléchi pendant une journée, ça me faisait capoter, qui a vu personnellement 100 millions de dollars dans des paniers en osier alignés sur les murs de son bureau à Makati, là, qui est une petite municipalité en banlieue de la Manille. Il se souvient même que les billets de 100 dollars US étaient chacun des billets était estampillé d'un lapin rose.
Oh.
Tu sais, c'est, je trouve que ça va loin là, dans l'ego et l'orgueil. Là,
je sais pas qu'est-ce que ça peut signifier, un lapin rose.
Ben moi, ma seule référence, c'est soit Énergizer. Il y a les publicités d'Énergizer, les batteries, il y avait un lapin rose. Mais sinon, c'est un lapin blanc. Mais dans le film La Matrice, il y avait un lapin blanc dans que le personnage poursuivait. Enfin, je me suis demandé si c'était pas une référence à ça. Mais au niveau Énergizer, je sais pas non plus.
Ouais, je sais pas si c'est pas un signe de, je sais pas, d'un cartel de cette région. Ça. S'il y a des distordus là, impliqués dans le trafic de toutes sortes, là, laissez-nous savoir ce que ça veut dire, selon vous, des lapins roses. Mais crime, 100 millions de dollars en
coupure de 100, c'est beaucoup. Là,
dans des paniers en osier. Ah,
c'est fou. Là. Puis il disait,
trop une scène de film, de cartel.
Oui, exact. C'est surréaliste. Puis même cet employé-là, il disait, c'est tellement drôle. Il dit, quand je suis allé le visiter, il dit, il y avait tellement de serviteurs pour n'importe quoi. Là, tout ce qu'il faisait, il faisait rien lui-même. Là. Il disait qu'il était vraiment entouré de nounous puis de tout ça pour à peu près tout faire.
Il y avait un entourage. Là,
oui, ouais. Vraiment. Là. Malgré tout l'argent qu'il possède, Leroux en veut toujours plus et veut être encore plus puissant. L'enfant qui s'était enfermé longtemps dans sa chambre, se perdant dans le code, était allé aussi loin que ses compétences techniques pouvaient le mener là, avec RX Limited. Il voulait être un autre type d'homme d'affaires, un seigneur du monde obscur. Mais pour vrai, là, dans le monde réel, pas seulement dans le monde virtuel. Selon un de ses anciens associés israéliens, il voulait faire encore plus d'argent rapidement que via les médicaments et diversifier ses sources de revenus. La seule façon de faire était bien entendu illégale. Il vivait un peu comme dans un film, et son côté sombre s'est développé davantage avec tout l'argent qu'il amassait chaque jour. Parce que, pas de tout de suite vous donner les montants, là, mais c'est astronomique là, l'argent qu'il générait là, à chaque jour. Là.
Toujours dans le domaine de la vente de médicaments.
Juste ça, là, oui, exact. Puis ça, en fait, ça le finançait à peu près tous les autres secteurs.
Puis ça fait pas tant de temps que ça là, qu'il fait ça, là, parce qu'on est quoi? On est environ en 2009 dans la chronologie. Là, fait que ça fait quand même 4 ans.
4 ans, oui,
c'est
exact.
Quand même long pour une entreprise criminelle du genre. Là.
Oui.
Parce que les entreprises du dark web durent moins que ça. Ben, c'est 2 mois. Là.
Oui, exact. Je pense que la moyenne, c'était même pas 6 mois. Là.
Oui.
Non, exact. Puis lui, en fait, souvent, c'est drôle parce que quand je faisais de la recherche sur Paul Leroux, souvent, on le comparait au prince du dark web ou le Jeff Bezos du dark web, mais il n'a jamais rien fait sur le dark web.
C'est vrai, ben non.
Mais... il a tout fait ça sur le web légal, là, sur le web de surface, là, tous ses sites web, tout était sur le web de surface, donc je trouvais ça drôle de l'associer au dark web parce que c'est même pas le cas. Là.
Oui, il y a beaucoup de choses qu'il faisait, Leroux, puis on va y arriver, qui sont plus dans le dark world, mais le vrai monde. Là,
oui, c'est ça, exact. Là.
C'est plus un vrai caïd, tu sais, ce qu'un Jeff Bezos du dark web, là, c'est plus un espèce de Escobar du médicament.
Oui, c'est vrai que c'est ça.
ou de plein d'autres choses.
La richesse amplifie les impulsions naturelles de Leroux ainsi que son avidité, son impatience et son sentiment de supériorité. Un matin du début de 2009, Moran Oz, là, notre fameux employé là, de 26 ans dont on vous parlait plus tôt, qui est maintenant devenu directeur d'un des centres d'appel israéliens chargés du service à la clientèle, s'est retrouvé à marcher sous une pluie de balles. Un instant auparavant, c'est assez fou. Là. Un instant auparavant, il était assis sur le pont d'un petit yacht qui appartenait à Paul, naviguant juste hors de vue du littoral philippin. Puis il s'est retrouvé dans l'eau, le bateau reculait vers lui et les trois hommes qu'il pensait être les partenaires d'affaires de son patron, Leroux, se tenaient au-dessus de lui. Deux d'entre eux étaient armés et l'un a commencé à tirer dans l'océan près de Oz. Il lui a dit « c'était pour les requins » lorsque les tirs ont finalement cessé. « La prochaine fois, ça sera pour toi. » L'homme tenait un téléphone satellite dans les mains, parce que pour appeler, communiquer sur l'océan. Là. Puis il lui dit « vous volez Paul, vous devez nous dire où vous mettez l'argent. » Oz se sent complètement désincarné, paniqué et réplique « quoi qu'il ait pensé que j'avais fait, c'était une erreur. Si j'avais fait quelque chose, je l'aurais dit à Paul. » Fait que ça, c'est juste une parenthèse là, que je voulais vous dire, mais puis même dans le livre de Evan, il raconte tout comment tout ça s'est passé. En fait, Paul l'avait fait venir aux Philippines la veille, il avait été cherché à l'aéroport, dans sa BMW, il l'avait fait coucher dans une belle villa. Tu sais, il l'avait amené déjeuner, puis il l'a amené sur le bateau sans jamais rien dire.
C'est un guet-apens.
Oui, vraiment. Puis ça a l'air que même le lendemain de cet incident-là, Paul est revenu le chercher pour le ramener à l'aéroport. Puis là, il a dit mais pourquoi? Puis il dit c'est pas moi qui décide. Il dit, c'est pas moi qui a commandé ça.
Okay.
Fait que c'était étrange, puis ça a l'air qu'il en parlait pas comme si de rien ne s'était passé. Mais Oz, un peu comme d'autres, vous allez voir, personne veut démissionner. Ils ont tous peur de lui, fait qu'il reste à l'emploi. À l'emploi de Paul, malgré la crainte et tout ça.
Donc, ils en savent trop pour démissionner.
Oui, c'est ça.
Je ne crois pas que Moran Oz, là, qui a grandi à Jérusalem, s'attendait à ce genre d'aventure lorsqu'il a décidé en 2005 de travailler dans un centre d'appel, avouons-le.
Ouais.
En février de la même année, il venait de terminer ses études secondaires et son service obligatoire dans l'armée israélienne. Il rendit visite à un oncle à New York, réfléchissant à la prochaine étape de sa vie, soit aller à l'école, soit démarrer sa propre entreprise. Et lorsqu'un ami l'appela pour lui annoncer que son beau-frère avait lancé une entreprise en Israël et cherchait à embaucher du personnel, les seules exigences étaient qu'il ait une bonne maîtrise de l'anglais et une compréhension là, de base des ordinateurs. C'est donc là que Oz est rentré chez lui et a accepté le boulot. Et là, on connaît la suite. 4 ans plus tard, il se faisait tirer dessus à travers les requins dans l'océan. Pourtant, Leroux et Oz avaient une très bonne relation et il avait même confiance en lui, là, car ils s'étaient rencontrés à quelques reprises, autant à Hong Kong qu'à Makati, pour ouvrir un autre centre d'appel pour le service à la clientèle d'Alphanet et RX Limited, là, mais cette fois-ci à Tel Aviv.
Oui.
Oz était toujours accompagné de Berkman, le comptable, lors de ses voyages pour rencontrer Leroux. Alors que RX Limited grandissait encore, Leroux ouvre d'autres centres d'appel, là, encore une fois, pour Alphanet et adopte des techniques agressive de marketing par email pour recruter davantage de clients. En fait, il utilise que des listes de courriels de spam, mais utilise aussi des centaines de noms de domaines différents, comme le yourpills.com, là, par exemple. Comme ça, ben, ça fait en sorte que le même site se retrouve spammé partout. Là.
Oui, exact. Et ça évitait aussi, une des raisons aussi pourquoi il faisait ça, c'est que souvent, veut pas, les envois se faisaient spammer, donc ils tombaient sur des blacklists.
Oui,
des
ils se faisaient bloquer. Oui.
Oui, c'est ça. Fait que donc, en ayant tout le temps différents noms de domaines, mais ils pouvaient contourner tout ça.
Les filtres et tout ça. Voilà. Aux Philippines, les nouveaux centres d'appel ont des noms tout autant originaux, tels que Dial Magic, Global iNet Bridge et des noms comme ça. Là. Et c'était également la même chose pour ceux ouverts en Inde. Pour combler les postes de direction, il s'est tourné vers Oz et Berkman, qui devaient recruter des Israéliens pour aller travailler aux Philippines. Il avait acheté plusieurs condos pour loger les employés venus de l'extérieur. Donc, il y avait quand même un certain décorum là, pour les nouveaux employés.
Oui, vraiment. Puis ça a l'air que, justement, je pense que c'est Oz qui disait qu'il a acheté des tours à condos.
Ben oui, vides, rien de moins. Hein.
Vides pour justement faire du roulement. Puis il disait qu'il comprenait pas pourquoi il faisait ça, mais il faisait beaucoup bouger ses employés de centre d'appel. T'sais, il y en avait plusieurs. Il faisait toujours se promener. Je sais pas si c'est pour brouiller des pistes. Même lui, il comprenait pas la logique derrière ça.
Oui, ben sans doute. Hein, j'imagine un peu comme on fait dans le trafic. sexuel oui, aussi. Oui, tu sais, ça fait en sorte que c'est des gens qui sont plus contrôlables. Hein. Tu les sors de leur ville, tu les amènes ailleurs, ils vont parler moins, ils vont être, ils risquent de moins faire rire de l'info, je pense, en les bougeant souvent.
Ouais, effectivement.
Comme vous pouvez le constater. Comme vous pouvez le constater, les affaires roulent toujours rondement là, pour Leroux et c'est également la même chose pour Charles Schulz, là, le pharmacien d'Oshkosh au Wisconsin, on se rappelle de lui. Là. Le système AlphaNet lui fournit un flux régulier d'ordonnances rédigées par des médecins situés partout aux États-Unis. Les représentants d'AlphaNet, qu'il connaissait là, par des noms comme Mike Gilmore et Will Morris, ont toujours résolu les problèmes lorsqu'ils se présentent et étaient toujours disponibles par téléphone et par email. Encore une fois, c'est des noms des faux noms. En un seul jour, là, par exemple, en juillet 2010, la pharmacie a rempli et expédié 973 ordonnances et en décembre 2011, 575.
C'est ses records, ça. Mais c'est beaucoup.
Ben oui. Schulz savait bien là, que le volume des ordonnances venant à sa rencontre impliquait fortement que les médecins n'examinaient pas là, les questionnaires médicaux des patients très rigoureusement. Là. Mais vu qu'il n'a jamais eu de problème avec les autorités et que tout ce cash flow aidait la rentabilité de son entreprise, il ne s'en souciait pas trop, ou du moins ne voulait pas se poser de questions. Mais on sait, hein, quand on commence à être négligent, c'est là qu'on peut faire des erreurs. Exact. À la fin de 2011, les deux pharmacies de Schulz ont expédié plus de 700 000 ordonnances. AlphaNet avait transféré plus de 27 millions de dollars à partir de divers comptes à Hong Kong et aux comptes de banque de Schulz. La majeure partie de l'argent devait couvrir le prix du gros là, pour l'achat des médicaments, mais 3,3 millions de dollars provenait des frais d'ordonnance que Schulz avait reçus, que l'entreprise avait augmenté d'ailleurs là, en 2007 de 3,50 à 4 $ chacune. Donc un petit 50 sous de plus, mais sur 700 000 ordonnances en une année, là, c'est clair. Là. Mais en même temps, il me semble qu'ils doivent commencer à trouver la soupe chaude un peu, là, rendu 4-5 ans après l'opération là, comme ça.
Oui, tu vas voir. Parmi les centaines de milliers de colis que Schulz a envoyés, il n'en faudra que 6 pour découvrir le stratagème frauduleux. Entre 2007 et 2010, un client du Minnesota a passé une demi-douzaine de commandes du médicament Soma et Fioricet, dont on vous a parlé plus tôt, à partir de 5 sites web qui étaient contrôlés par AlphaNet. Les questionnaires médicaux des clients ont été traités par 4 médecins différents, dont les ordonnances ont été remplies à leur tour par Schulz Pharmacy et Medicine Mart. En fait, c'est ces deux pharmacies. Ce fameux client était plutôt un agent spécial de la DEA.
Oh yeah!
Donc, la Drug Enforcement Administration des États-Unis, là, ceux qui régularisent, ben pas régularisent, mais qui contrôlent la drogue. Là,
et les médicaments.
Oui, exact. Oui. La DEA était tombée sur le chemin de RX Limited presque par accident. C'est lors d'une enquête sur une pharmacie à Chicago en 2007, donc environ 2 ans après le début de tout ça, il y a des agents qui avaient découvert que l'entreprise semblait expédier des grandes quantités de médicaments sur ordonnance à l'aide d'un seul compte FedEx. Puis c'est vrai que c'est louche, là, parce qu'ils utilisaient tous le même compte FedEx. Lorsque les autorités ont obtenu les dossiers de la compagnie FedEx, ils ont trouvé quelque chose d'encore plus étonnant. Environ 100 pharmacies à travers le pays utilisaient ce même numéro de compte.
Okay.
Là, ça, c'est vrai que ça commence à être louche. Tous livraient principalement les mêmes 3 médicaments, encore une fois, le Fioricet, l'Ultram et le Soma. En octobre 2007, les agents de la DEA ont commencé à faire des achats de médicaments sur ordonnance sur un des sites web qui était relié à RX Limited, sur un site appelé acmemeds.com. Heureusement pour eux, lorsque chaque livraison arrivait, elle était étiquetée avec le nom du médecin qui avait rédigé l'ordonnance et la pharmacie qui avait rempli la commande. Donc, il y avait à peu près toutes les informations qu'ils avaient besoin pour leur enquête. Ils ont également remarqué que sur les sites web de l'Empire, pour rassurer les clients, les sites soulignaient tous qu'ils ne vendaient pas des substances contrôlées, que leurs médicaments étaient distribués par des médecins et ou des pharmaciens certifiés et ou agréés par le conseil d'administration et que les clients de RX Limited n'avaient pas besoin de voir un médecin en personne ou même d'avoir une ordonnance au préalable avant d'acheter des médicaments sur ordonnance en ligne. Il y a un agent de la DEA s'est alors connecté en tant que client, a rempli le questionnaire médical et a commandé 30 comprimés de Soma. L'ordonnance a été remplie par une pharmacie à Monroe, Wisconsin, appelée Medicine Mart, qui appartenait à Charles Schulz.
Mm-hmm.
La DIA s'est rapidement rendu compte qu'il y avait plusieurs dizaines de sites web qui étaient reliés à RX Limited, à partir desquels les clients pouvaient effectuer des achats de médicaments avec des noms tels, il y en a tellement, là, Cheap RX Meds, encore une fois, il y a le RX de oui. RX Limited, allfarmmeds.com, buymedscheap.com, yourpills, comme on vous avait dit, il y avait speedyrx, encore une fois, .com. Donc, toutes sortes de noms variés comme ça. Là.
Oui, c'est ça. Des fois, tu as l'impression qu'il y a des fautes d'orthographe intentionnelles. Oui. Dans le nom du site web, tout ça, là, c'est très louche, tout ça.
Oui, parce que même les clients, tu sais, je me mets dans la peau des clients aussi qui achetaient ça, tu sais. J'imagine que quand tu veux, c'est sûr que le système américain n'est pas comme notre système au Canada. Je ne sais pas si c'est plus compliqué d'avoir des... Puis même le prix des pilules, je pense que c'était quasiment le même prix du marché. Mm-hmm. Fait que c'était pas une question d'économie, je pense que c'était vraiment une question de facilité d'accès.
C'est clair.
Parce que eux-mêmes, là, quand tu commandes ça la première fois, que tu mets ta carte de crédit là-dessus sur un courriel que tu as reçu en spam. Là. Il me semble que, en tout cas, personnellement, j'aurais toujours peur de me faire avoir,
ben oui.
Que je ne reçoive jamais rien ou des fausses pilules ou des placebos ou quoi que ce soit. Là.
Non, c'est clair. Mais en même temps, étant donné qu'ils vendaient des opioïdes, ça crée une dépendance. Puis oui. C'est clair que c'est pas tout le monde qui commandait ça qui avait mal au dos. T'sais.
Non, c'est sûr.
Ou il y en a que ça a peut-être commencé comme ça, puis que finalement, ça a évolué en autre chose. Mais ces gens-là, pardon, ont besoin de leur dose. Puis ils n'iront pas chez le pharmacien. La dose qu'ils ont besoin pour leur dépendance va plus loin que la dose prescrite pour leur mal de dos par leur médecin. T'sais. Donc, c'est vraiment pratique. C'est comme un pusher en ligne pour eux autres.
Oui, t'as absolument raison.
Mais avant d'aller plus loin, Seb, c'est le moment de remercier nos membres Patreon parce qu'ils ont été nombreux à nous rejoindre pendant la pandémie cette année. Je te laisse aller.
On commence par remercier Pauline B. Merci à toi.
Un gros high five à Xena.
Aussi, un remerciement à la mystérieuse Maya.
Aussi un gros shout-out à Apple Plow.
On donne de l'amour à Nicolas T.
On veut remercier du fond du cœur Jeanne E.
Un high-five à Julie H.
Une bonne poignée de main virtuelle à Jonathan VC.
Merci à toi, Simon D.
Aussi un gros shout-out à Maxime C. Sans toi, on pourrait pas faire le show.
Et un autre remerciement pour le ou la mystérieuse Lempika.
Un high-five à Joanie M. Merci à toi.
Et merci, Catherine L., de ton soutien.
Aussi, Isia B., on pourrait pas faire le show si t'étais pas là.
Et pour conclure, David Q., merci énormément.
Oh oui. On fait maintenant là, un bond là, pour revenir à l'incident du bateau avec Oz là, et les requins en 2009. Là. Après cet événement, le comportement de Moran Oz avait changé, et on le comprend. Là.
Oui.
Il était devenu très renfermé et méfiant. Son entourage se questionnait à savoir pourquoi, sans savoir ce qui s'était réellement passé. Pour Oz, il semblait aussi que Leroux était devenu différent après ce voyage. Dans les mois qui ont suivi, il est devenu de plus en plus vicieux, menaçant même les employés quand quelque chose n'était pas fait comme lui, il voudrait que ça se fasse. Là. Par exemple, il pouvait menacer Berkman via un autre employé en disant « Il ferait mieux de répondre au téléphone ou il n'y aura plus de main pour le faire, ni de langue pour parler.
Ouais. »
Donc, c'était des menaces de sévices corporels. Parmi les gestionnaires de ces différents centres d'appel, il y avait de plus en plus de rumeurs qui circulaient au sujet du patron, telles que le fait qu'il faisait du trafic d'êtres humains, qu'il faisait même du commerce d'armes et qu'il faisait tuer des gens sur commande, même qu'il avait une entreprise possédant une flotte d'avions et embauchait des gens pour s'envoler vers d'autres pays afin de faire de la contrebande de drogue. Donc, beaucoup de rumeurs à son endroit. Pour eux, cela ressemblait à une bande dessinée ou encore à un film d'action. Ils ne pouvaient pas croire que tout ça était bel et bien réel. Oui. Cependant, la question est de savoir pourquoi les employés qui ont dirigé dans les différentes entreprises de Leroux ne l'ont pas abandonné une fois qu'elles ont commencé à apprendre des faits troublants sur lui et sur l'entreprise. Donc, c'est un peu la grande question.
Oui.
La réponse était assez simple. Ils pensaient que Leroux les ferait assassiner s'il les faisait. Donc, c'est la peur, évidemment.
Oui, exact.
Comme Hunter l'avait mentionné au départ pour sa défense dans l'épisode 1,
oui.
Où on parlait de cet homme de bras, là,
oui.
De Leroux.
Joseph.
Et puis, ces gens là, n'avaient pas tort d'avoir peur. Par exemple, Omer Bezalel, qui était un des directeurs des opérations dans l'une des entreprises israéliennes, avait tenté, lui, de quitter une entreprise de Leroux. Il s'en est suivi là, que deux gars lui ont montré des photos de sa famille en lui disant « Vous n'allez pas démissionner. »
Le sous-texte était là.
Oui. Vers 2011 maintenant, Leroux a commencé à disparaître pendant de longues périodes. Aucun des employés de haut niveau ne savait où il se trouvait ni ce qu'il faisait. Sauf que lorsqu'il refaisait surface, il était plus menaçant qu'auparavant. Il éclatait constamment en colère pour des choses banales. Tous les employés étaient terrorisés. Parallèlement, en août 2011, le gouvernement américain déclara illégal la distribution de médicaments, du médicament Soma à travers les frontières des différents États. Il s'agissait de l'un des produits pharmaceutiques phare de RX Limited, et lorsque les pharmacies n'ont plus été en mesure de l'expédier, le tiers des activités commerciales de la société de Leroux s'était évaporé du jour au lendemain.
C'est fou, hein? C'est ça. Il bloquait vraiment parce que...
Mais ça arrive, ça. C'est comme le fameux Actavis, le sirop contre la toux, contenant de la codéine que les rappers boivent avec du 7-Up. Ça aussi, ça a été interdit. Ça arrive souvent qu'ils vont bannir des médicaments comme ça. Surtout s'il y a des risques d'addiction.
C'était ça la raison principale.
Leroux a donc décidé de fermer le bureau de Tel Aviv et de déplacer tout le service client aux Philippines. À ce moment-là, Oz et Berkman, toujours au poste, ont aidé au bien des opérations de déménagement en expédiant les ordinateurs et le mobilier de bureau à Manille. En 2012, Leroux annonce également qu'il réduisait également les effectifs du bureau de Jérusalem. Donc, il n'y a pas le choix de couper.
Oui, exact.
Les transferts bancaires qui provenaient normalement des comptes de Leroux à Hong Kong ont commencé à arriver de lieux étranges, de lieux différents et nouveaux. Ensuite, ils sont devenus sporadiques, donc moins réguliers.
Oui, exact, parce que Leroux, en fait, il avait vraiment l'habitude de toujours payer temps des grosses sommes d'argent sans problème, là, c'est ce qu'il disait, mais là, à ce moment-là, on le sentait là, qu'il y avait des problèmes de cash flow.
Bientôt, l'entreprise n'avait plus les fonds nécessaires pour payer les indemnités dues aux employés qui étaient licenciés. Quand Oz s'est plaint, Leroux a viré les deux tiers de l'argent et s'est engagé à envoyer le reste bientôt.
Qu'il n'a jamais eu. En mars 2012, presque 5 ans après le début de l'enquête, des agents d'ADI se présentent à la pharmacie de Schulz à Oshkosh, armés de mandats de perquisition. Schulz a immédiatement reconnu son implication dans le stratagème et a remis ses ordinateurs et ses dossiers clients sans broncher. Il a également accepté de maintenir sa relation professionnelle avec ses contacts d'AlphaNet. Il a laissé les autorités enregistrer les appels téléphoniques, parce qu'il avait besoin de preuves. Il leur a même attribué une salle, un bureau pour s'installer à la pharmacie tout en leur servant du café au quotidien. Je trouvais ça un peu rigolo, mais il prenait soin des agents de la DIA, sûrement pour apaiser les charges contre lui. Pourquoi Schulz? Pourquoi lui a été ciblé? En fait, la DIA avait en sa possession le plus grand fournisseur de RX Limited, un pharmacien de 80 ans dans le Wisconsin. Schulz avait tout de même peu d'informations, lui, sur le fonctionnement de l'entreprise, beaucoup plus vaste auquel il avait participé. Il n'avait que quelques noms et numéros de téléphone et courriel sur les ordonnances ainsi que la comptabilité, mais le reste, il y avait pas d'autres contacts. Lui, il envoyait les médicaments, puis il recevait l'argent sans plus. Mais les agents tiraient les ficelles de l'entreprise, espérant en trouver une ficelle qui les conduirait à celui qui était assis au sommet. Car à ce moment, Paul Leroux n'est toujours pas dans le collimateur des autorités.
Ben oui, il est toujours incognito.
Ouais. C'est long, là. Cinq ans d'enquête, là. Ça a été vraiment long, là, essayer de décortiquer tous les dossiers. Mais c'est sûr que là, quand ils ont perquisitionné avec Schulz, ils ont eu plus d'infos. Il a fallu qu'ils remontent tous les noms de domaine, les pharmacies, les adresses FedEx. Ça a été vraiment un long travail d'enquête.
Ah oui, monter des preuves dans un dossier comme ça, c'est colossal. Ah,
vraiment. Puis, à la fin de l'été 2012, Paul Leroux a de nouveau disparu. Moran Oz et les autres employés israéliens ont cessé d'avoir de ses nouvelles. Des rumeurs circulaient selon laquelle il était entré dans la clandestinité parce que les autorités avaient intercepté l'un de ses bateaux qui contenait des armes et de la drogue. On va y revenir. Les virements de Hong Kong et des autres comptes ont même complètement cessé. Selon un ancien manager, il se doutait qu'il s'était passé quelque chose. Il a même avoué que ceux-ci priaient pour qu'il soit mort. Il souhaitait qu'il soit décédé. Par contre, même s'il semblait absent, Leroux continuait de se diversifier et donnait des tâches entièrement nouvelles à ses employés des Philippines dans des secteurs d'activité assez nouveaux pour eux, qui n'étaient pas nécessairement habitués de gérer. Par exemple, il y a un ami de Oz qui avait été mis en charge d'une entreprise d'exploitation forestière en République démocratique du Congo. Comme on vous disait tantôt, il y avait même un faux passeport à son identité au Congo, justement. Là. Donc, Donc, il se diversifiait dans toutes sortes d'activités. Et un autre employé israélien philippin, parce qu'il habitait aux Philippines, avait été chargé de mener une opération complexe pour se procurer de l'or directement auprès des mines africaines. D'autres encore étaient embauchés pour garder les maisons que Leroux possédait à Hong Kong. Leroux, justement, ça a l'air que dans son style de gestion, il faisait quand même rapidement confiance aux gens et il donnait beaucoup de responsabilités. Il fallait juste pas que tu te plantes.
Oui.
Mais souvent, il te lançait, il donnait une tâche, même sans se soucier si tu avais de l'expertise là-dedans ou quoi que ce soit, puis les gens se démenaient, mais il y arrivait aussi. Mais c'est vrai que ça doit être assez drôle. Tu es engagé pour travailler dans un centre d'appel, puis là, tu te mets à gérer du trafic d'or ou des industries forestières. Donc, je me mets dans la tête encore des employés. Ça doit être assez particulier. Mais encore une fois, il les payait bien. On sait, aux Philippines, t'as pas besoin de payer cher pour que ça soit bien payé. Donc, d'après moi, c'est aussi pour cette raison-là que tout se passait quand même bien.
Oui. Puis le point de l'or, tu sais, évidemment, là, quand on en parlait, moi et Seb, quand on recherchait sur cette histoire-là, eh bien, on se disait qu'on aurait pu faire une saison entière sur Col-Leroux. Donc, il y a certains dossiers qu'on va vous parler un petit peu moins qu'on aurait voulu.
Oui.
Dans le cas de l'or, ben, c'est qu'il semblerait que c'est plus facile de blanchir de l'or, que de l'argent. Donc, il y avait tout intérêt à faire ça.
Oui.
Puis le milieu des mines au Congo, entre autres, et ailleurs, c'est quand même assez corrompu.
Oui, exact.
Puis une fois que tu as l'or en ta possession, ben, tu peux la détruire, tu peux la faire refondre, tu peux faire autre chose avec ça, tu peux la revendre d'une certaine façon.
Oui.
C'est moins tracé, tu peux la faire disparaître plus facilement. Donc, il y a une de ses grandes couvertures à Paul Leroux au niveau de sa fortune, c'était de changer l'argent en or d'une certaine façon.
Oui.
Donc, il n'y avait pas le choix d'être dans le monde de l'exploitation forestière, exploitation minière, tout ça pour réussir à cacher un peu sa fortune.
Blanchir son argent.
Le 20 août 2009, une importante cargaison d'armes illégales a été saisie sur un navire au large de Marie-Vélez, une ville portuaire dans la province de Bataan, à 3 heures à l'ouest de Manille, aux Philippines. Un pêcheur local avait alerté les douaniers qu'un cargo suspect s'était ancré le près de la côte. Lorsque 3 officiers du port se sont rendus à bord du navire, ils ont constaté qu'il n'avait pas de drapeau national, bien que le mot « Panama » ait été peint sur sa coque. Ils sont montés à bord du navire et ont interrogé le capitaine, un Sud-Africain du nom de Lawrence John Byrne. Il disait provenir du Congo. Un officier a remarqué 20 grandes caisses en bois non identifiées sur le pont. Lorsque Byrne n'a pas été en mesure de déclarer le contenu des boîtes, l'officier a appelé ses supérieurs et là, une équipe d'agents des douanes est arrivée à bord avec les renforts de la police nationale des Philippines et des gardes-côtes. Dans 3 des caisses, ils ont trouvé 54 fusils d'assaut. Une quatrième contenait 45 baïonnettes, qui est une arme blanche conçue pour s'adapter sur le canon d'un fusil, et 120 chargeurs d'armes à feu vides.
Ouais.
Donc, il y avait du stock là-dedans. Par contre, au moins 16 caisses d'armes avaient déjà été déchargées et récupérées par d'autres petits bateaux avant que les autorités n'arrivent. Parce qu'on sait souvent, ils vont faire une diversion puis le reste de la cargaison va partir ailleurs. Cette année-là, c'était une année électorale aux Philippines et les autorités craignaient que l'afflux d'armes à feu n'annonce une vague de terrorisme politique. Certains pensaient que ces armes étaient destinées à des groupes rebelles opérant dans le sud du pays, y compris les militants d'Abu Sayyaf, un groupe terroriste lié à l'époque à Al-Qaïda. Finalement, les armes étaient plutôt destinées à un marchand d'armes à Manille appelé Red, White and Blue Arms Incorporated. Tout ça était illégal, bien sûr, mais ce qui est étrange, c'est que selon des documents classifiés de l'ambassade des États-Unis à Jakarta, publiés par Wikileaks, la vente d'armes à feu avait été approuvée par le ministère indonésien de la Défense, car au départ, la finalité du voyage, ça devait être l'Indonésie.
Oui, exact.
Donc, dans cette histoire aussi, 4 témoins gênants ont étrangement disparu. Un certain Jones, qui a aidé Leroux entre 2007 et 2011 pour toutes les activités en dehors du monde pharmaceutique, avait lui aussi très peur de mourir s'il quittait l'organisation. Il l'a ainsi aidé à développer pendant 4 ans des entreprises dans l'exploitation forestière, l'extraction de métaux précieux, entre autres l'or, mais aussi des transactions foncières, du transport de cocaïne et du trafic d'armes.
Oui.
Donc, toutes ces activités étaient réparties sur des dizaines de sociétés écrans enregistrées dans le monde. Donc, bien organisées encore une fois, là. Ce qui est particulier, c'est que même après tout ce temps, personne ne sait exactement comment Leroux s'était impliqué dans le marché des armes, sauf le fait que ces organisations illégales étaient composées d'ex-soldats et de mercenaires, comme le fameux Joseph Hunter ou Dave Smith, là, qui sont eux originaires de la Grande-Bretagne. Leroux avait embauché Smith quelque temps avant 2008 et était devenu son adjoint, chargé de coordonner les expéditions d'or à travers l'Afrique ou d'organiser le meurtre des meurtres de personnes gênantes. Là. C'est Smith qui, en 2008, 2009, s'est tenu au-dessus de Moran Oz, flottant dans les eaux au large de Subic Bay et qu'il a menacé de le tuer avec les requins.
Oui.
Il faut aussi préciser que Smith a été tué lui aussi par des employés de Leroux, car celui-ci avait commencé à voler de l'or, même de l'argent et de la cocaïne. Il a été mis dans une tombe encore en vie, oui, là, et criblé de balles. Et ensuite, c'est Joseph Hunter qui a témoigné de cet événement.
Oui, parce que sinon, il n'y avait aucune trace de lui ou quoi que ce soit. Parce que lui, il disait qu'il n'était pas assez bien payé. C'est ce qui avait motivé son vol, mais... connaissant Leroux qui surveillait tout, ça a été automatique. Là,
ben oui,
puis c'était une petite tombe, ça a l'air en plus qui était pas profonde, et ils l'ont jeté dedans, puis ils ont tout dit ce qu'il a fait pas correct, mais il a pas eu la chance de s'expliquer ou quoi que ce soit, ils l'ont descendu.
Non, les politiques RH dans les entreprises de Paul Leroux, complainte salariale et enterré vivant.
Oui, exact. Début 2012, les autorités américaines commencent à se rapprocher des opérations de Leroux. Ce printemps-là, il a échangé son refuge aux Philippines contre une nouvelle base à Rio de Janeiro. Leroux semblait voir le Brésil comme une porte de sortie vers un nouveau départ. Peu de temps après son arrivée, il s'est mis à générer de nouvelles affaires là-bas. Le premier dossier concernait un bateau transportant 120 millions de dollars de cocaïne provenant du Pérou vers un acheteur de l'autre côté du Pacifique. Alors qu'il finalisait les préparatifs pour l'expédition, une autre offre lucrative s'est présentée. Un associé de confiance de Leroux l'a contacté pour lui dire qu'il avait rencontré un représentant d'un cartel colombien qui voulait mettre sur pied une opération de méthamphétamine à grande échelle au Libéria. Le 11 mai, l'associé de Leroux s'est rendu à Rio pour une réunion. Les Colombiens voulaient des précurseurs chimiques, une installation et un chimiste, évidemment, pour fabriquer la méthamphétamine, en échange desquels il approvisionnerait Leroux en cocaïne. Les Colombiens ont demandé un échantillon du produit que Leroux pourrait les aider à créer. Une semaine plus tard, il a donné à l'associé son numéro de compte bancaire et les Colombiens ont effectué le paiement pour un échantillon de 24 grammes de méthamphétamine. Leroux a envoyé l'échantillon au Libéria et a fourni un numéro de suivi, là, comme tout paquet qu'on poste. Les Colombiens ont testé la méthamphétamine et ont constaté qu'elle était presque pure à 100%. Il était alors prêt à faire de la business avec lui. 100 kilos de méthamphétamine pour 100 kilos de cocaïne. Me semble que, pas le plus grand spécialiste, mais me semble que de la coke, ça vaut plus cher que des méthamphétamines, mais peut-être que ça l'est pur. C'est là qu'on dirait que j'avais l'impression que qu'il y avait une arnaque, mais il me semble que c'est pas un équivalent. Je sais pas s'il y en a qui travaillent peut-être dans la police ou dans le droit, qui ont peut-être une idée plus juste, mais là-dessus, j'étais embêté sur l'équivalence des deux. Peut-être que parce que les méthamphétamines, c'était facile à avoir, puis de la coke plus dure. Il y a peut-être un échange qui va au-delà de la valeur. Mais
il y en a une qui est synthétique, mais en même temps...
Oui, t'as raison.
Ouais, bonne question. Moi non plus, c'est... ni une ni l'autre n'est une drogue que je consomme.
Non, c'est ça. Tout ce qui était nécessaire pour conclure l'accord était que Leroux se rend au Libéria et rencontre le représentant du cartel. Il a pris un vol commercial vers Monrovia, qui est la capitale libérienne, et a atterri le 25 septembre 2012. Comme c'était souvent le cas avec Leroux et ses entreprises, l'échange était un plan audacieux, presque trop exagéré dans sa complexité. Mais cette fois, Leroux n'était pas celui qui tirait les ficelles. Le lendemain de son arrivée, le 26 septembre 2012, Paul Calder Leroux est arrêté au Libéria en Afrique de l'Ouest par la DIA et les autorités locales. La DIA avait réussi à lui tendre un piège via un des bras droits de Leroux, Robert McGowan, qui travaillait pour lui quand même depuis 2008 et à l'origine l'avait aidé pour ses entreprises forestières. C'était à la base, c'est comme ça qu'il l'avait embauché. Le lendemain de son arrivée en sol américain, Leroux a signé un accord acceptant de plaider coupable à ses deux chefs d'accusation, soit trafic de drogue et piratage informatique, en échange de l'immunité contre des poursuites pour tout autre crime qu'il pourrait admettre. Malgré ça, il demeurait emprisonné aux États-Unis et depuis son arrestation, il travaillait avec la DIA, les aidant à arrêter des tueurs à gages ou des trafiquants qui ont été souvent ses anciens associés. Donc, il est devenu un informateur pour les autorités depuis 2012. Puis comme on vous a beaucoup parlé dans le premier épisode, toute l'information concernant Leroux de l'enquête, même pour le dossier de Joseph Hunter, il n'y a rien qui sortait des autorités. Il n'y a jamais rien qui a été sorti. Tout ça est tout de même un peu nébuleux. Oui. On ne sait pas à quoi qui les a aidés. Il n'y a aucune réponse pour ça, mais selon moi, il a dû collaborer pour vrai, puis il a dû vraiment les aider.
Là. Ah non, la tonne d'informations que ce gars-là peut révéler aux autorités dans le monde du trafic d'armes, du trafic de drogue, d'exploitation minière, même illégale, tout ça, c'est quelqu'un qui en connaît beaucoup, je pense.
Oui, vraiment. C'était vraiment un bourreau de travail. Hein. Il disait qu'il travaillait 18 à 19 heures par jour, selon lui.
Oui.
Que c'était vraiment qu'il arrêtait jamais 7 jours sur 7, là, sans arrêt. Bref, comme Émile vous le disait en début d'épisode, le 12 juin 2020, là, trois semaines environ avant l'enregistrement de ça, malgré l'immunité qui a été promise, il a été condamné à 25 ans de prison sur une multitude de charges contre lui, là, y compris justement trafic de drogue, piratage informatique et blanchiment d'argent. Il fait face aussi également à des accusations supplémentaires aux Philippines pour le meurtre d'au moins 7 personnes, dont Catherine Lee, là, la courtière immobilière qu'on vous a parlé dans le premier épisode. D'après moi, il sortira pas de prison avant de mourir, là. Donc, c'est un peu comme ça que son histoire s'est terminée. Un peu comme Émile le disait, évidemment, là, il y a tout le côté, disons, de son cartel et tout ça. On n'a pas pu tout vous mentionner parce qu'il y a énormément de détails. Puis je vais vous en donner un peu tout à l'heure. Mais on sait, dans le fond, la DI, il attendait juste ça, de pouvoir le coincer. Il s'est fait vraiment prendre à son propre jeu, d'une certaine manière.
Ils ont sûrement dû retenir un peu les informations qui leur étaient utiles pour eux, la DIA.
Oui.
Mais par la suite, tous les dossiers de meurtre de ces trucs-là, ça touche moins la DIA. Ça.
Oui, exactement.
Donc, ils ont dû avoir un stratagème quand même, parce que je trouve qu'ils ont été quand même brillants dans leur décision, parce qu'ils ont sûrement acquis de l'information quand même pertinente. Puis le gars, quand même 25 ans de prison, vous allez me dire, il y a des meurtres d'impliqués, c'est pas tant que ça, là. Mm-hmm. Ça pourrait être prison à vie, mais il y a des chances que ça se retrouve longtemps, là, qui passe beaucoup de temps de prison, puis qui en sort jamais vivant, là. On sait aussi ce qui attend un peu ce type de personne-là en prison, mais jusqu'à date, on a vu un pattern, tu vas me dire, Paul Leroux n'était pas du dark web, mais on a vu un peu un pattern de suicide ou de meurtre, de mort étrange, pardon, dans les prisons de gens qui ont possédé des sites sur le dark web ou des gros sites transactionnels comme ça. Donc, peut-être que c'est aussi ce qui attend Leroux, un genre de mort étrange, inexpliquée prison.
Oui, effectivement, hein, parce que je sais pas où ce qui est emprisonné. C'était comme pas révélé. Je sais pas si c'est justement pour sa sécurité ou quoi que ce soit, là, parce que justement, il est informateur. Donc, selon moi, ils doivent protéger le maximum d'informations pour pas qu'il se fasse tuer en prison. Là. Mais où est-ce qu'il y a eu... Parce que la DIA, avant qu'il déménage au Brésil, il avait sa trace. Là. Mais quand il a déménagé au Brésil, la DIA avait peur de faire avorter l'enquête. Mais les autorités brésiliennes ont été hyper collaboratives dès le départ. Il a été mis sous écoute, il a été suivi. Donc, c'est tout ça s'est déroulé assez rapidement. Mais pendant des années...
Silence radio,
lui, il faisait ses trucs sans trop se soucier. Là. Puis même, je pourrais vous dire qu'en 2008, puis ça fait longtemps, là, je veux dire, dans tout ça, il avait eu peur de se faire prendre. Il avait même fait fabriquer un faux certificat de mort.
Au cas où.
Puis même sur la raison de la mort, il avait spécifié qu'il fallait qu'il ait été criblé de balles. J'ai trouvé ça pas drôle. Ben, j'ai trouvé ça drôle, dans le sens que...
Il prévoyait mourir comme ça.
Oui, c'est ça. Je trouvais ça un peu ironique, d'une certaine manière. Là. Donc, c'était assez particulier. Autre chose que je pourrais vous dire, la DIA, comme on vous dit, n'ont jamais voulu donner d'infos. Même à Ratcliffe, là, qui a écrit le livre, lui, il a essayé souvent d'avoir des détails. Jamais. La seule chose qu'ils ont dit, c'est que c'était de loin le trafiquant de drogue le plus intelligent qu'ils ont eu à faire. Là. Autre chose, ce qui a mené aussi à l'enquête pour les médicaments et tout ça, puis même le blocage du soma, c'est que, comme vous le savez peut-être sûrement, aux États-Unis, il y a eu une crise des opiacés, même à partir de 2007, puis ça s'appelait Opération Baywatch. Puis c'est un peu comme ça qu'ils ont trouvé, je pense, une pharmacie de Chicago qui était dans le réseau de RX Limited, là. Puis ils ont vraiment remonté les ramifications, mais de ce que je comprends, il est indirectement responsable d'une partie de la crise des opioïdes.
Oui.
C'est fou, ça. Tu sais, c'est comment qu'une seule personne, par le réseau qu'a créé, a engendré cette crise-là. Là. Les gens en meurent. Là, où, c'est fou.
Ça, on dirait oui, que ça, il ne semblait pas vendre de fentanyl non, à la non, base. Exact. Mais je suis sûr qu'il y en a qui devaient prendre ces médicaments-là puis tourner ça en d'autres formes. Là.
Oui, c'est sûr que oui. Là, je suis convaincu. Je ne suis pas chimiste, mais bref, c'est fascinant. En fait, c'est l'histoire. Je pense que c'est le cas qui m'a le plus fasciné. Si vous voulez plus de détails, il est en anglais, le livre de Radcliffe. Vous pouvez vous le procurer.
On va le nommer. Ça s'appelle The Mastermind.
Mastermind, oui.
L'auteur, c'est Evan Radcliffe. Ouais. Vraiment, il a fait un super boulot. Évidemment, nous, on a lu son livre. On s'est renseigné ailleurs, pardon, aussi. Mais étant donné que c'est pas un cas qui a été énormément couvert par les médias traditionnels, Evan a vraiment fait un travail d'enquête là, vraiment approfondi. Là, nous, on est des raconteurs ici. Là, on fait pas un niveau d'enquête que lui a fait.
Non,
mais
exact.
Lui, il est allé parler à des proches de Leroux et des gens qui ont travaillé pour lui. Et même, c'est ce qu'on se disait hors d'onde avant d'enregistrer, ce gars-là, qui est un journaliste pour Wired, entre autres, a risqué sa vie dans cette enquête-là. Là. C'est quand même... Leroux a tué des gens pour moins que ça. Puis ce gars-là expose des détails quand même, pas tant que ça sur sa vie privée, mais un peu.
Non, oui.
Puis des faits qui sont quand même assez accablants à son endroit, avec des témoignages, tout ça. Donc, si j'étais Evan Radcliffe, on dirait que j'aurais tendance à regarder derrière moi assez souvent.
Oui, je n'avais pas pensé quand tu me dis ça sur le fait qu'il pouvait craindre pour sa vie. Puis c'est vrai, là, parce qu'il a tellement récolté de témoignages de personnes. Il y a plusieurs personnes qui n'ont pas voulu être nommées, mais il y en a qui ont voulu l'être là, sans problème. Donc, effectivement, mais j'ai quand même l'impression qu'il doit se tenir tranquille. Là,
et ah oui, c'est clair.
J'ose croire. Là.
On lui a lancé un appel en passant à Evan pour tenter de... On se disait peut-être qu'on pourrait faire une interview avec lui, un épisode bonus, quelque chose comme ça. Donc, on vous revient si ça débouche à quelque part, mais on voulait lui donner un gros shout-out pour son travail. Son livre, c'est The Mastermind, c'est passionnant. Puis d'ailleurs, il risque d'avoir une production cinématographique adaptée là, sur la vie de Paul Leroux.
Oui, absolument. Il y a le réalisateur, scénariste Michael Mann, qui a entre autres écrit dans les années 80 le Miami Vice, même La Nouvelle Mouture. Puis il a fait plein d'autres choses, The Aviator, etc. Lui, il a acheté les droits en 2016 d'un autre livre qui a été fait sur Paul Leroux, qui a été fait par Hélène Shannon. J'ai écouté plusieurs entrevues avec elle aussi. Elle aussi, elle a fait un travail excellent. Là, le livre, c'est Hunting Leroux. Je l'ai pas lu, évidemment, mais elle a fait un excellent travail. Donc, ils ont racheté les droits. En 2019, on a vu des nouvelles là-dessus, mais il n'y a pas de date de sortie officielle. Là. Puis j'imagine qu'avec la COVID et tout ça, ça a dû retarder le déploiement. Peut-être quasiment leur avantage, dans le sens qu'avec les nouveaux développements, ils ont peut-être pu intégrer ça. Mais honnêtement, j'ai hâte de voir une sorte de docu-fiction là-dessus, ou un film, une fiction basée sur le livre. Je trouve que ça va être super intéressant.
Oui.
Moi, j'aime toujours ça, des biopics comme ça. Là. Puis justement, là, c'est tellement riche en scénario de film que je ne peux pas croire que ça ne pourra pas être bon.
Mais non, exact.
Donc, ça fait pas mal le tour, hein, je te dirais, de l'histoire de Paul Leroux. C'était tout qu'un cas que j'ai aimé vraiment me plonger là-dedans. Là.
C'est clair. C'est longtemps qu'on en parlait, mais on ne savait pas trop comment aborder le sujet non plus, parce que c'est tellement une grosse histoire.
Ouais.
Je pense que le fait de l'avoir divisé en deux parties aussi, ça a permis un peu de séparer les différents sujets, puis de en même temps de pas trop vous garrocher des choses, là, de l'information pour vous remplir le cerveau. Donc, ça a espacé un petit peu la chronologie des événements, même si c'est quelque chose qui est arrivé dans un délai quand même relativement court. On parle d'une dizaine d'années environ, mais qui se poursuit encore aujourd'hui. Donc, ça va être à surveiller. Aussi, on a enregistré un after show, parce qu'un élément qu'on a volontairement omis de ces deux épisodes, c'est le fait que Leroux a été, on le soupçonne d'être à l'origine du Bitcoin.
Donc, le créateur.
Oui, de la crypto-monnaie. Donc, c'est un sujet qui est très intéressant. On va enregistrer un after show à propos de ça pour nos abonnés Patreon, nos abonnés au forfait Oui Monsieur. Donc, ces gens-là, évidemment, ils ont les épisodes en avance, tout ça, mais ils ont du contenu exclusif aussi. Donc, ils ont les droits aux after shows qu'on enregistre. Et aussi, parce que là, on arrive déjà en fin de saison, mon cher Seb.
Oui.
Il nous reste un épisode à cette saison régulière. On vous a fait voter les Distordus via notre groupe de discussion sur Facebook. Vous avez voté, je pense qu'environ 500 votes pour Anonymous. Donc, le dernier épisode de notre saison actuelle, de notre saison 6, sera sur le groupe des Anonymous. Oui. Donc, laissez-nous un petit peu de temps pour terminer cette la recherche et tout ça. On va vous présenter ça d'ici une semaine ou deux environ. Ça va être très intéressant. Mais les abonnés, oui monsieur, sur Patreon, eux, ils ont droit à un épisode secret qui va sortir un petit peu plus tard cet été. Donc, ça risque d'être intéressant. Mais sinon, on arrive déjà bientôt à la fin de la saison. Donc, une saison un peu perturbée avec le confinement, ça fait en sorte qu'on a pris un peu de retard, alors que on avait de l'avance comme jamais dans notre saison. On avait plus de toute la moitié de notre première de notre saison, la première moitié qui était enregistrée. Donc, ça allait bien, les sorties, tout ça. Avec André aussi, on veut remercier André qui nous a aidé à monter cette saison-là. Puis, ben merci à votre patience, en fait. Merci aux Distordus et à votre patience de nous avoir, d'avoir accepté un peu les petites pauses qu'on a pris pour reprendre un peu le rythme d'enregistrement pendant cette pandémie. Mais là, on est en feu et on va terminer ça en beauté. Donc, dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez aimé l'histoire de Paul Leroux? Est-ce que vous avez aimé le fait qu'on a fait l'épisode divisé en deux? Dites-nous ça. On est partout sur les réseaux sociaux, hein, sur Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, Distorsion Podcast ou encore sur Twitter, c'est Distorsion Pod. Vous pouvez nous dire ce que vous en pensez et même nous suggérer des idées d'épisodes.
Oui, parce qu'on va revenir.
Oh oui, bien sûr. Et merci encore à vous, les Distordus. On vous aime. Et pour terminer, Seb, aurais-tu un mot de la fin pour nous ce soir?
Si vous devez acheter des médicaments, ne passez jamais par votre boîte de Spam.
Oh non, jamais.